Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
Il n'y a pas eu d'épreuve de dissertation hier dans le retour au Nord Kivu, zone sous occupation du M23, ce alors que les dispositions ont été prises pour la tenue des épreuves hors session de l'examen d'état dans cette région. Mais les inspecteurs de l'EPST ont été rappelés d'urgence, à la grande surprise de tous et au désespoir des finalistes. Toujours pas de date pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cela, une semaine après le report de ce scrutin, le député Didier Kamundu menace d'activer la procédure de destitution du bureau d'âge si le bureau définitif n'est pas installé dans un bref délai. Et puis, pénurie de carburant à Kinshasa depuis quelques jours. Hier, des longues files de véhicules étaient visibles dans certaines stations-service. Le ministre des Hydrocarbures rassure, la situation reviendra à la normale sous peu. Didier Boudimbou est l'invité de ce journal. À tous et à toutes, bonjour. Deuxième jour ce mardi des épreuves préliminaires de l'examen d'état édition 2024 à travers la RDC. Au Nord Kivu cependant, ces épreuves n'ont pas eu lieu dans le territoire de Rutshuru hier, sous occupation des rebelles du M23. Alors que toutes les dispositions avaient déjà été prises pour sa tenue, les inspecteurs de l'EPST déployés dans cette région ont été rappelés d'urgence par les autorités provinciales à Goma, ce à la grande surprise de tous et au désespoir des finalistes. Pourtant, préparé à affronter la dissertation. Pendant ce temps, une grande réunion élargie aux responsables de l'EPST est convoquée au gouvernorat du Nord Kivu. La notabilité de Rutshuru dit craindre une troisième année blanche dans ce territoire. Elle appelle le gouvernement à sauver cette année en délocalisant les centres dans les zones sous autorité de l'État. Reportage de Denise Loukesso.
Pendant que les matériels, notamment les malles contenant des items et les personnels de l'EPST, étaient déjà déployés sur différents sites de passation de ces épreuves à Rutshuru et la mise en place étant terminée, les finalistes ont été surpris désagréablement ce lundi matin, pas de lancement officiel et aucune communication faite. C'est la déception et le désespoir sur les visages des finalistes qui ont attendu jusqu'en début d'après-midi ce lundi avant de rebrousser chemin.
Nous sommes tous stressés parce que nous ne savons pas si l'examen sera présent. Il n'y a plus d'espoir parce que ils ont dit, ils ont dit que les inspecteurs sont partis déjà à Goma. Ça ne va pas.
Un notable de Rutshuru dit craindre une troisième année blanche dans ce territoire. Et même Moussa Mukanda demande au gouvernement congolais de tout faire pour sauver l'année scolaire pour ses élèves.
Nous demandons que ces élèves traumatisés d'abord par la guerre, pour ne pas rejoindre la rébellion du M23, de pouvoir les soulager à délocaliser les cendres et en élaborer des examens spéciaux pour eux.
Notons que plus de 60 000 candidats finalistes dans l'EPST Nord Kivu, y compris ceux de Rutshuru, répartis dans 203 centres, doivent participer aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024. Le vice-gouverneur qui a lancé officiellement ces épreuves à Goma parle des 12 centres occupés par les rebelles. Goma, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Vous le savez, les épreuves hors session de l'examen d'état édition 2024 ont débuté hier sur toute l'étendue du territoire national et dans les écoles consulaires se trouvant à l'extérieur du pays. Pour Kinshasa, Radio Okapi a rencontré les élèves des différentes écoles. En voici les explications pour ceux ou celles qui ont passé ces épreuves pour la toute première fois. Reportage de Elvi Kungé, Alpha Mpoissa et Babel Mpongo Masimango.
À la fin des épreuves de la dissertation, certains élèves estiment que c'était facile, avec des thèmes abordables et espèrent à une réussite totale.
Oui, ça a été. C'était sur l'éducation qui est en train de prôner la créativité. J'ai d'abord commencé par expliquer l'éducation et donner son importance et son apport dans la créativité. Et voilà, j'ai donné des exemples, j'ai donné des personnes qui sont passées par l'éducation pour faire ressortir leur créativité.
Pour d'autres, cela n'a pas été facile aujourd'hui pour eux une première fois. Le stress était au rendez-vous. Malgré cela, ils se sont quand même débrouillés.
Je réponds au nom de l'élève Ngengome Sokyangebeni. Le sujet était « On ne peut pas être heureux sans une famille. » La famille est la base, donc la famille est sacrée. À la base, ça n'a pas été facile. Il y avait le stress qui était au rendez-vous, mais grâce à Dieu, on s'est bien débrouillé. Tout le monde espère toujours une réussite et non un échec.
Pour le ministre des tutelles Tony Mwamba, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis les cycles préscolaires jusqu'à la fin du cycle des humanités et souhaite à ce que les résultats qui en découleront reflètent réellement le niveau de chaque candidat.
Du côté de la province éducationnelle Tanganyika 2, aucun incident n'a été signalé aux épreuves d'hier. C'est confiant à Radio Kapi, l'inspecteur principal provincial annonce que certaines difficultés ont été surmontées dans l'organisation de l'épreuve de dissertation. Quant aux inondations dans certaines écoles, Paul Pakou rassure que les élèves finalistes sont délocalisés. Paul Amunanga, reportage.
L'inspection principale provinciale Tanganyika 2 couvre trois territoires, à savoir Kabalo, Kongolo et Manono. L'IPP Paul Pakou rapporte que plus de 11 500 candidats étaient attendus pour l'épreuve de dissertation dans son secteur. Les questionnaires ont été acheminés à Manono par la voie fluviale, car la route étant impraticable, précise Paul Pakou, IPP de la province éducationnelle Tanganyika 2.
Mes superviseurs qui ont fait la traversée ont connu des difficultés pour se rendre du côté de Manono et même un peu du côté de Kongolo, mais Dieu étant, ils ont traversé le fleuve Congo. Ce qui est intéressant, qu'on n'a pas décoré des cas de noyade. Et du côté des superviseurs, et du côté des inspecteurs, et du côté des candidats. La route pour faire Manono praticable par véhicule, c'est difficile.
L'IPP annonce aussi que face aux inondations, il a pris des mesures préventives pour délocaliser les élèves finalistes avant les épreuves hors session de l'examen d'État. Signalons par ailleurs que dans la province éducationnelle Tanganyika 1, qui couvre la ville et les territoires de Kalemi, les territoires de Moba et Nyunzu, ainsi que la localité de Kabimba, aucun incident n'est signalé aussi. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Une semaine après le report de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le calendrier réaménagé n'est toujours pas connu. Le député Didier Kamundu menace d'activer la procédure de destitution du bureau d'âge si le bureau définitif n'est pas installé dans un bref délai. Dans une correspondance adressée aux députés, l'élu de l'Union sacrée s'insurge contre la léthargie à l'Assemblée nationale avec près d'un mois de chômage des députés, alors que la République tourne au ralenti depuis 5 mois maintenant. La dynamique pour le vigile du mandat, Divma, dénonce pour sa part le blocage de l'installation du gouvernement et la souffrance de la population qui a déjà atteint le niveau inquiétant pour des intérêts jugés égoïstes des membres qui dirigent le bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Michel Kifindangoy.
Dans une interview accordée à Radio Okapi, la dynamique pour le vigile du mandat dénonce le blocage par le président du bureau d'âge de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale en dépit de la misère dont sont victimes les Congolais. Yves Biasalou, coordonnateur national de la DIVMA.
Les élections, l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale ne dépend pas de l'humeur du président du bureau d'âge. Cela est organisé dans le respect de la loi. Le gouvernement, avant qu'il ne puisse commencer le travail, il doit être investi par l'Assemblée nationale qui ne veut toujours pas installer son bureau. Ça, c'est très grave.
Ce qui pousse les députés de l'Union sacrée Didier Kamundu d'accorder 24 heures à Christophe Mboso pour débloquer les institutions, faute de quoi il risque sa destitution.
Il y a plusieurs moyens contraignants que nous pouvons actionner si le bureau d'âge ne va pas répondre en dehors 24 heures à notre préoccupation. Ça peut aller jusqu'à la destitution du bureau d'âge. À Goma, la situation est catastrophique. Sur les champs de bataille, nous ne faisons que perdre chaque jour des entités.
Didier Kamundu promet de mobiliser dans les heures qui suivent les autres députés afin d'obtenir dans le bref délai l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, quels sont les critères à remplir pour être un bon représentant du peuple et comment le dénicher? Autant de questions ressorties dans la ville de Beni lors d'une activité de restitution des rapports de surveillance électorale du scrutin de décembre dernier, activité menée par l'ONG Forum de paix de Beni. Papi Kasereka, assistant de recherche au sein de Forum de paix, parle de leurs observations et des mécanismes à mettre en place par la population en vue d'opérer un choix judicieux de leurs représentants au prochain scrutin. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons observé le fait que, par exemple, pendant les processus de la campagne électorale, avant même la campagne électorale, il y a des candidats politiques qui ont commencé à placarder leurs affiches avant même la date prévue par la loi. Ce qui signifie, du point de vue éthique, les gens qui veulent nous diriger, les gens qui veulent nous représenter, étaient en fait, en réalité, les violeurs des normes et de la règle. Et ça, c'est un problème comme communauté, comme peuple. Nous devons nous interroger. Est-ce que c'est ce type de dirigeant que nous voulons? Nous avons aussi observé pendant la période électorale, à Beni particulièrement, des propos et des discours qui manquaient de la tolérance. Nous avons observé des accusations gratuites, les acteurs visés en fait à s'effacer sur le terrain. Les gens déchiraient les affiches de leurs adversaires politiques et souvent nuitamment. Nous avons aussi observé le fait que les jours du scrutin, beaucoup de déplacés n'ont pas pu voter. Parce que tout simplement, là où ils devraient voter, c'était dans leur village. Dans leur village, il y avait l'insécurité. Il est donc important de réfléchir sur ces mécanismes.
Direction le Kasaï central. La Fédération nationale des artisans de petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, appelle les entreprises qui exécutent les travaux sur les routes en province de profiter de la saison sèche pour finaliser ces travaux. Pointant la route Kananga-Kalambambouji, le vice-président de la FENAPEC dit vouloir simplement voir l'entreprise Toa stabiliser cette voie, comme elle avait expliqué qu'elle rencontrait des difficultés de travailler suite aux fortes pluies qui s'abattent sur la région. Pour le vice-président de la FENAPEC au Kasaï central, le BCECO et les autorités ont également la responsabilité dans ces travaux attendus par les centres kassaïens. Jean-Pierre Kamouabou est au micro de François Kadima.
Comme la saison sèche s'invite déjà à la fête, nous voulons interpeller toutes les entreprises, les personnalités qui entrent dans cette chaîne pour mettre déjà la main à la pâte, profitant ces deux mois et demi de la saison sèche pour nous stabiliser rapidement la route Kananga-Kalambambouji, là où nous interpellons l'entreprise Toa, qui est sur la voie, sur la route Kananga-Kalambambouji, parce qu'il y avait des raisons, et même Beseko, parce que le directeur Beseko nous avait dit qu'avec des fonds, si Toa des fonds, cette route-là n'a besoin que de 3 mois pour stabiliser de bout en bout. Je crois que si l'entreprise a des moyens et si Beseko fait aussi le lobbying, je crois qu'ils peuvent rapidement nous stabiliser, nous offrir cette route. Et surtout qu'il y a, nous avons déjà 2 ponts en métallique qui sont au sol, au niveau de Kabelekesse, ainsi qu'au niveau de la rivière Lueta. L'office de route nous avait promis qu'avec la saison sèche, ils pouvaient déjà faire un effort pour jeter ces 2 ponts.
À noter que les travaux n'ont pas avancé sur cette route suite aux problèmes des fonds, selon le BCECO, et les fortes pluies, selon Toa, qui ne permettaient pas à l'entreprise de stabiliser la voie. À Mbujimayi, nous apprenons qu'une 10aine de maisons préfabriquées érigées sur le site du projet Maïs au Kasaï oriental sont toujours inhabitées depuis près de 2 ans. Ces maisons sont celles de 300 logements sociaux qui devraient être construites à Mbujimayi dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Le gouverneur de province intérimaire qui a visité ce site la semaine dernière dit s'inquiéter suite à l'abandon de ces maisons préfabriquées. Explication Esther Ndalafina.
Sur près d'une trentaine de maisons préfabriquées érigées sur le site du projet Maïs au Kasaï oriental PEMKO, une 10aine de maisons dont les travaux de montage sont terminés demeurent inhabitées depuis près de 2 ans. Au cours de la visite effectuée la semaine dernière sur ce site, Ananias Mouzadi Kankonde, gouverneur de province intérimaire, a fait un état de lieu de ce chantier.
Le constat est que c'est un chantier en abandon qui nécessite qu'il y ait une évaluation approfondie et des actions qui doivent être menées.
Le gouverneur de province intérimaire souhaite que ces maisons soient occupées vu les difficultés auxquelles fait face la province du Kasaï oriental.
C'est inconcevable. Au moment où dans notre province, les problèmes des loyers se posent avec acuité, d'une part. D'autre part, nous avons des maisons ici qui moisissent. C'est pas normal. Ce qui a fait que nous puissions effectuer une descente pour en savoir plus et prendre une décision conséquente.
Signalons que dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État, 300 logements sociaux devraient être érigés en Mbujimayi sur l'ancien site du PEMKO. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Sud Kivu, l'acte symbolique de la fermeture de la base de la MONUSCO a été signé hier à Mushimbakie, dans la ville de Baraka, Fizi. Ainsi, la MONUSCO se retire et ferme complètement cette base du contingent pakistanais, après d'autres dans la partie nord de la province. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef du sous-bureau de la MONUSCO, Ouvira, les représentants de l'église méthodiste libre, propriétaire de la concession occupée durant près de 20 ans, étaient aussi présents le maire de la ville de Baraka et le représentant du gouvernement provincial du Sud Kivu, Fiston Goma.
C'est sous une ambiance de sonneries des clairons que le drapeau des Nations Unies et celui du Pakistan sont descendus des trois poteaux ici dans l'enceinte de celle qui désormais sera appelée l'ancienne base de la MONUSCO de Mushimba qui est dans la ville de Baraka. Seul le drapeau de la RDC flotte en ces lieux. Après près de 20 ans passés dans cette zone, la cohabitation a été pacifique entre communautés locales et différents contingents onusiens qui sont passés par ici. Le maire de la ville de Baraka, Jacques Mbotchoa.
On n'a pas constaté des échauffourées comme dans d'autres milieux. On a été chaque fois ensemble, on a eu une bonne collaboration. Comme chaque mandat a sa durée, la durée a dû toucher à sa fin. Et maintenant que nous traversons de la transition dans notre province, puis dans notre milieu qui est la ville de Baraka.
Les représentants du gouvernement provincial ont reconnu également des défis qui persistent dans la zone et les efforts nécessaires que cela demande pour garantir un avenir pacifique et durable pour toutes les communautés locales ethniques dans la région. En dehors des maisons préfabriquées, la MONUSCO laisse d'autres équipements et matériels au gouvernement provincial. Les agences onusiennes dont le HCR et OCHA restent sur place à Baraka Fizi, chacune pour l'exécution de son mandat respectif. Douvira Fiston Mamayaba, la Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nous sommes en Afrique du Sud. Un rapport sur l'incendie d'un immeuble qui a tué 76 personnes l'an dernier a conclu que les autorités de la ville de Johannesburg devraient être tenues pour responsables parce qu'elles étaient au courant des graves problèmes de sécurité dans l'immeuble avec des appartements délabrés, ce au moins 4 ans avant l'incendie. En effet, l'incendie nocturne de l'immeuble de 5 étages situé dans le centre de la ville le 31 août dernier a été l'une des pires catastrophes qu'ait connue l'Afrique du Sud. Au moins 12 enfants figurent parmi les morts et 86 autres personnes blessées, certaines ayant dû sauter par les fenêtres pour échapper aux flammes.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou. Tout en reconnaissant la dette pétrolière payée à hauteur de 30% par le gouvernement, il affirme que la difficulté actuelle d'approvisionnement en carburant est plutôt logistique. Le ministre rassure que la situation va revenir à la normale sous peu. Il est avec Cynthia Bachizi.
Monsieur le ministre Didier Boudimbou, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors, les pétroliers éprouvent des difficultés pour se réapprovisionner en carburant à cause de la dette que l'État n'arrive pas à payer, c'est ce qu'ils disent. Une réaction ?
La réaction, elle est simple. Actuellement, c'est vrai que le stock appartient aux fournisseurs, c'est souvent au pays. Logiquement, on n'est pas censé connaître des crises qu'on est en train de connaître à Kinshasa et à Matadi, mais je pense que la direction de CEP, ils ont eu à prendre une décision pour annuler les livraisons au niveau des stations de nuit et le week-end. C'est comme ça que, comme ce week-end, les stations n'ont pas été ravitaillées, ni les nuits précédentes. C'est ça qui a causé ce petit chaos-là à Kinshasa et à Matadi. Mais j'ai dû donner des instructions claires à CEP pour qu'ils puissent répondre aux livraisons de nuit et des week-ends. Donc déjà cette nuit, la nuit de lundi à mardi, il y aura des livraisons et je pense que d'ici demain, la situation sera plus ou moins stable. Par rapport à ce que les pétroliers, quand ils parlent de paiement des manques à gagner, nous sommes en train d'y travailler. Il y a une réunion qui est prévue ce mercredi parce que nous devons voir avec les banquiers dans quelles mesures nous pouvons faire pour pouvoir enlever les fonds nécessaires pour pouvoir régler les manques à gagner au niveau des pétroliers. Et je pense que c'est parmi nos priorités aussi pour essayer de leur donner, pour que leur trésorerie puisse un peu respirer et que le service au niveau des stations et ailleurs puisse continuer.
Ils disent qu'aujourd'hui, l'État congolais n'a honoré que 30% de cette dette pétrolière.
Vous connaissez le pays comme le Nigeria, où ils sont parmi les grands producteurs de pétrole d'Afrique. Mais aujourd'hui, le prix du carburant a été multiplié par 3. C'est pour dire que les réalités sont, c'est peut-être qu'un peu partout, le prix peut bouger. Mais le chef de l'État a insisté. On a augmenté que de 300 francs congolais parce que le chef de l'État ne veut pas que le carburant puisse bouger parce qu'une fois que le carburant bouge, ça va directement impacter sur les denrées alimentaires et sur le prix de transport en commun. Aujourd'hui, si on devait appliquer le prix pompe, on serait entre 6 et 7 000 francs par litre. Donc c'est l'État qui prend le reste. D'où l'ardoise, la facture, elle est quand même assez importante. Elle est plus ou moins 400 millions de dollars. On a payé 123 millions de dollars. Et là, nous sommes en train de travailler avec les banquiers. On va continuer les réunions pour pouvoir solder ce qui reste. Et ce sera fait.
Gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'il faut attendre que les problèmes se posent pour agir ?
Non, le prévoir, c'est avoir assez de produits sur le sol national. Prévoir, c'est avoir tout ce qu'il faut pour ne pas tomber dans cette pénurie. Mais là, on ne peut pas prévoir quand CEP prend une décision sans nous avertir, parce que je suis le patron du secteur. C'est d'habitude, à chaque fois qu'ils doivent prendre une décision, ils me font une lettre, et c'est à ce moment-là qu'on sait réagir pour anticiper. Mais ils ont pris une décision sans nous tenir compte, sans nous informer, et on a été surpris comme tout le monde qu'ils avaient arrêté le service de nuit et de week-end. Mais logiquement, ils nous auraient informés, on allait tout faire pour que ça n'arrive pas.
CEP a décidé d'adapter ses horaires malgré les 2 millions que vous avez déjà versés à CEP, chose que vous aviez dite il y a déjà quelques semaines.
Tout à fait. Et comme je vous l'avais dit, CEP a effectivement, ils ont accusé réception qu'ils ont déjà reçu les 2 millions. Mais comme eux voulaient qu'on puisse rajouter les 3 millions, c'est cette chose qui sera peut-être faite cette semaine, ils ont anticipé, mais négativement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas accepté et qu'on ne peut pas accepter, parce que voir maintenant les fils au niveau des stations, voir comment la population est en train de souffrir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc j'ai dû demander à CEP de pouvoir revoir sa décision et de pouvoir répondre les services de nuit et les services de week-end. Pour le reste, on va trouver des solutions. Après la réunion de mercredi, pour tout ce qui est argent, on trouvera des solutions et on pourra régler ce qu'il faut.
Il y a des économistes qui pensent qu'il faut peut-être aligner la subvention pétrolière comme une dépense obligatoire au même titre que les salaires. Vous en pensez quoi?
Ce n'est pas une mauvaise idée, mais vous savez que par rapport à tout ça, logiquement, on avait déjà des solutions. Même avec mon collègue des finances, le ministre Nicolas Kazadi, il y avait la solution qui avait été trouvée pour que tous les mois ou tous les 2-3 mois qu'on puisse éponger les manques à gagner de façon à ce que ça ne s'entasse pas comme c'est les manques à gagner de toute une année et ça devient lourd, alors que si vous payez mensuellement, ça vous fait peut-être 30 millions, 25 millions tous les mois et on a été tranquille. Mais malheureusement, il y a la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays et cette guerre est en train d'asphyxier nos finances, ce qui fait que même la trésorerie au niveau national, on le sait tous, il y a beaucoup d'argent qui part pour que nous puissions défendre nos compatriotes et notre sol. La solution était là, c'était mensuellement ou tous les 2 mois qu'il fallait payer. Et pendant un temps, ça a été fait, mais à cause de cette guerre, on ne sait pas suivre.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci, madame.
Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, était avec Cynthia Bachizi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.